Grand Colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Donc, nous reprenons, et nous, enfin, concluons n'est pas le mot, mais par une... mettez-les là, et puis je le redirai, que des lunettes, qui ont l'air pas mal, d'ailleurs, des lunettes de presbyte, je signale. Bon, on verra. Que j'ai appelé, mais sans en être très convaincu, les guerres sauvages. Je crois que M. Markowitz, quand je lui en ai parlé, m'a immédiatement signalé que ça n'allait pas du tout. Pour la Yougoslavie, ça ne va pas du tout non plus, donc je retirerai. Pour vous non plus. Non, mais bon, pour personne. Donc ça sera supprimé. C'est sauvage que j'ai emprunté à la traduction de Polybe dans la bibliothèque de la Pléiade, à l'occasion du soulèvement des esclaves à Carthage après la seconde guerre punique dont Flaubert s'est servi pour la guerre des esclaves dans Salammbô. Et Polybe désigne cette guerre comme polémos aspondos, c'est-à-dire qu'il n'a pas été précédé par une libation. Et le traducteur, qui est Roussel, a trouvé le mot une guerre sauvage, qui est très très heureux, je trouve, comme traduction. Tout simplement, j'avais à ça, c'est que laissons sauvage de côté, et donc nous commencerons par la partition du sous-continent indien, et nous passerons en Amérique, une situation évidemment tout à fait différente, en Colombie, avant de passer à la Yougoslavie et à la région des Grands Lacs. Alors, était prévu une contribution sur la guerre civile en Algérie dans les années 90, mais Luis Martinez est au lit. Bon, c'est la saison. Il enverra un texte pour la publication, mais nous regrettons son absence. Donc je donne tout de suite la parole à Claude Markowitz, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et donc l'Inde, je pense, est votre spécialité.
Oui. Donc, la partition de l'Inde, l'événement le plus traumatique de l'histoire du sous-continent au XXe siècle, a été rarement analysé comme une guerre civile. On préfère en général parler des massacres de la partition, ce qui n'est pas d'ailleurs un terme impropre, comme on le verra, mais qui laisse entendre qu'on a assisté à une orgie de violence spontanée et peu organisée. Or, on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'essentiel de la violence à laquelle on a assisté dans la province du Punjab, l'épicentre du conflit, entre août et octobre 1947, a été le fait de groupes organisés, composés de quasi-professionnels de la violence, qui étaient en général des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Bien que le bilan de ces violences reste un point controversé, les estimations allant d'un minimum de 180 000 morts à un maximum de 2 millions, vous voyez une fourchette considérable, mais je ne vais pas discuter de chiffres, si vous me posez des questions, je vous répondrai. Donc sans parler des blessés, des femmes violées, des enfants traumatisés pour la vie. Donc il suggère fortement par son ampleur même l'existence d'une guerre, car les émeutes intercommunautaires qui étaient un élément ordinaire de la vie indienne depuis les années 20, se traduisait par un chiffre de victimes nettement moins élevé et resté en général localisé. Alors, si ce à quoi on a assisté dans le Punjab présente incontestablement des caractères de guerre, on peut s'interroger néanmoins sur la qualification de cette guerre de civile. Une guerre civile oppose normalement des antagonistes à l'intérieur d'une unité politique, d'une entité politique définie en général à l'époque moderne, un État-nation. Or, c'est là que le cas de l'Inde en 1947 se révèle particulier, puisque la guerre coïncide précisément avec une partition de l'entité politique existante, l'Inde britannique, entre deux dominions souverains, l'Inde et le Pakistan, suivant un plan adopté en juin 1947 à l'initiative du dernier vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, et accepté par les deux partis, les deux principaux partis politiques indiens, représentatifs des deux principales communautés religieuses, le Congrès d'une part et la Ligue musulmane de l'autre. Alors il faut néanmoins remarquer que le Congrès s'était rallié à contre-cœur au plan de partition et que ses dirigeants, à commencer par Gandhi lui-même, étaient attachés au maintien de l'unité de l'Inde. Alors c'est pourquoi, dans l'historiographie indienne, la création du Pakistan est souvent vue comme une sécession, alors qu'au Pakistan, elle est perçue au contraire comme une libération des musulmans du joug hindou. Mais en fait, s'il faut qualifier cette guerre, ça serait plutôt qu'une guerre de sécession, une guerre d'indépendance, ça serait plutôt une guerre de succession autour de l'héritage colonial dont la province du Punjab constituait incontestablement le fleuron. Mais cette guerre n'a pas été menée directement entre des États, mais entre des communautés à base religieuse, ce qui justifie donc d'une certaine façon d'y voir un cas de guerre civile. On remarque que le Punjab n'a pas été la seule province à faire l'objet d'une partition entre zones à majorité musulmane qui devaient être rattachées au Pakistan et zones à majorité non musulmane qui devaient être rattachées à l'Inde. Le Bengale a connu un processus similaire. Pourtant, au Bengale, contrairement au cas du Punjab, ce partage n'a pas débouché sur des affrontements de grande ampleur. Il est dès lors légitime de poser la question suivante. S'il y a eu un accord sur la partition, pourquoi est-ce seulement au Punjab, la province la plus prospère de l'Inde, qu'on a assisté à des affrontements qui ont pris la forme d'une véritable guerre entre communautés à laquelle les nouveaux États ont été sur le moment incapables de prendre fin, de mettre fin. Donc c'est à cette question de généalogie qu'on s'efforcera de répondre dans la première partie de la présentation, avant de passer dans la seconde partie à une étude morphologique de cette guerre civile qui ne dit pas son nom. Donc, généalogie de la guerre civile au Punjab. Paradoxalement, dans l'engrenage des faits qui ont débouché sur une partition de l'Inde britannique, la province du Punjab est loin d'avoir joué un rôle décisif. C'est que, malgré l'existence de tensions interreligieuses, la province est restée dominée politiquement, a été dominée politiquement de 1919 à 1946 par un parti politique appelé Unionist Party qui représentait une coalition de propriétaires fonciers musulmans, hindous et sikhs, donc appartenant aux trois communautés religieuses, unis sur une ligne de loyauté à l'égard des Britanniques et d'opposition au nationalisme du Parti du Congrès ainsi qu'à la Ligue musulmane. Et donc lorsque, en 1940, à sa cession de Lahore, la Ligue musulmane, fondée, je vous le rappelle, en 1906 comme un rassemblement de notables et réorganisée à partir de 1934 par le talentueux avocat de Bombay, Mohammad Ali Jinnah, qui, entre nous soit dit, était loin d'être un musulman exemplaire, mais je n'insisterai pas là-dessus, mis en avant la revendication d'un Pakistan. Alors, on discute toujours sur les origines du terme, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Censé regrouper les provinces à majorité musulmane du Bengale, du Punjab, du Sindh, du Béloutchistan et de la province frontière du Nord-Ouest, ainsi que l'État princier du Cachemire. Donc quand la Ligue musulmane a adopté ce programme, elle était particulièrement faible au Punjab. Ce n'était pas du tout sa zone de force. D'ailleurs, la résolution, il faut le remarquer, était rédigée en termes ambigus, parce qu'elle laissait dans l'ombre la question de savoir si ce Pakistan ferait partie d'une Inde fédérale ou confédérale, ou serait véritablement un État séparé. En fait, cette question était restée en pointillé jusqu'à ce que la décision du nouveau gouvernement travailliste de Londres, en février 1946, d'entamer un processus de transfert de pouvoir, ne la remette à l'ordre du jour. Alors, pour simplifier à l'extrême des événements terriblement complexes, rappelons que les négociations entamées en 1946 entre les Britanniques, le Congrès et la Ligue musulmane ne purent déboucher à ce moment-là sur un accord consensuel et que l'appel de Jinnah en août 1946 à l'action directe déboucha sur un premier épisode de quasi-guerre civile à Calcutta, connu comme le Great Calcutta Killing, dans lequel périrent 5 à 10 000 personnes, suivi d'un massacre de grande ampleur de musulmans au Bihar voisin qui fit quelque 20 000 morts et ne fut arrêté que par l'intervention de l'aviation demandée par Nehru, alors Premier ministre d'un gouvernement intérimaire. Et puis il faut signaler aussi d'importantes violences anti-hindoues au Bengale oriental, l'actuel Bangladesh, qui ne prirent fin qu'après une intervention personnelle de Gandhi. Donc, face à l'impasse, le gouvernement Attlee, dans une réunion historique du cabinet tenue le 31 décembre 1946, a décidé d'accélérer le processus de transfert du pouvoir. D'ailleurs, Attlee s'était heurté à l'opposition d'un certain nombre de membres du cabinet. Mais il a passé outre. Et donc, en mars 1947, le gouvernement britannique a envoyé en Inde Lord Mountbatten, donc avec tout le prestige de ce chef de guerre qui en plus était le cousin du roi, muni de pouvoirs exceptionnels pour procéder le plus vite possible à la liquidation du Raj britannique. Donc Mountbatten réussit en juin à obtenir l'accord des deux principaux partis sur un plan de partition. Mais pendant ce temps, les tensions s'étaient accrues considérablement dans la province du Punjab, où le gouvernement unioniste, face à l'agitation lancée par la Ligue musulmane, qui s'était beaucoup renforcée dans la province, en particulier, elle avait pu bénéficier du soutien de beaucoup de chefs de confréries soufis. Il faut savoir que l'islam au Punjab, comme dans d'autres régions du nord-ouest de l'Inde, était à l'époque largement un islam soufi. Donc les chefs des ordres soufis avaient un énorme prestige social. Quand la majorité des pires se sont prononcés en faveur de la Ligue, ça a amené donc leurs mourides, leurs disciples à suivre. Et donc la Ligue musulmane est devenue une force politique incontournable au Punjab. Et donc elle a lancé une agitation pour renverser le gouvernement unioniste. Et donc ce dernier a été obligé de démissionner en mars 1947 et la province a été placée sous administration directe du gouverneur britannique, suivant certaines dispositions de la Constitution de 1935. Mais une vague de violence sans précédent avait fait déjà plus de 2000 morts en mars et après une courte trêve, les violences ont repris en mai. Mais on n'est pas encore dans la guerre civile. Alors, je reviens rapidement sur la situation de la province. Donc, le Punjab avait, au recensement de 1941, le dernier recensement de la période coloniale, une population de 28 millions d'habitants, dont 57% de musulmans, 27% d'hindous et 13% de sikhs. Il y avait en plus 2% de chrétiens et puis bon, quelques autres. L'ouest de la province, qui passait au Pakistan, avait 16 millions d'habitants et une nette majorité musulmane, 75% environ. Cependant, il comprenait une région agricole riche, connue comme les Canal Colonies, mise en valeur par de grands travaux d'irrigation à la fin du XIXe siècle, et peuplée en partie par une paysannerie sikh particulièrement prospère. D'autre part, il abritait un certain nombre des lieux saints de la communauté sikh. Et il englobait aussi la capitale provinciale, Lahore, où vivait une importante population hindoue et sikh appartenant en général à la classe moyenne. Alors l'est de la province, peuplé de 12 millions d'habitants, était à majorité hindou et sikh, mais il abritait cependant une importante population musulmane de 35% en gros. Alors, ce qui est curieux, rétrospectivement, pour nous, c'est que le plan de partition ne prévoyait pas d'échange de population. Les minorités religieuses étaient censées rester sur place et jouir de la protection des deux nouveaux États, chacune servant en quelque sorte d'otage pour assurer la sécurité de la minorité située de l'autre côté de la nouvelle frontière. Mais cet équilibre de la peur fut cependant rompu largement du fait de la situation particulière des sikhs. Ces derniers, qui se reconnaissaient peu dans le Congrès, mais avaient leur propre mouvement politique à base religieuse, connu comme le mouvement des Akalis, n'acceptèrent pas le plan de partition. Surtout quand la délimitation exacte de la nouvelle frontière, confiée à une commission présidé par le juge britannique Sir Cyril Radcliffe, et qui laissait du côté pakistanais les Canal Colonies et une partie des lieux saints sikhs, quand cette partition fut annoncée seulement le 16 août. Parce qu'il faut savoir, vous avez ce paradoxe extraordinaire, que quand les deux États sont devenus indépendants, donc respectivement les 14 et 15 août, la frontière entre eux n'avait pas encore été délimitée. Parce que Mountbatten avait décidé que s'il annonçait ce qu'on appelle le Radcliffe Award, avant l'indépendance, s'apaiterait et tout risquait d'être remis en question. Donc il avait décidé délibérément de retarder l'annonce de la délimitation exacte de la frontière. Mais en fait, finalement, ça s'est révélé une décision plutôt catastrophique. Parce que, en particulier, donc les Sikhs, une communauté à l'ancienne tradition guerrière, en fait, bon, il faudrait revenir sur l'histoire des Sikhs, mais je vous rappelle que les Sikhs sont au départ une secte, on peut dire une secte hindoue plutôt quiétiste, qui s'est transformée au XVIIe siècle, dans le cadre d'un certain nombre d'événements, en une communauté guerrière, parce que le dernier gourou Sikh, le gourou Gobind Singh, a créé en 1699 donc le Khalsa, une fraternité politico-militaire, donc caractérisée par un certain nombre de signes distinctifs. Les membres du Khalsa sont baptisés et ils ont un certain nombre de signes distinctifs, il y a un certain nombre de prohibitions, etc. Je ne reviens pas sur cette histoire, mais donc c'était une communauté qui avait une orientation guerrière qui a été en plus renforcée pendant la période britannique, parce que les Britanniques, à partir d'un certain moment, ont recruté beaucoup de soldats parmi la communauté Sikh. Donc cette communauté disposait d'une organisation de type paramilitaire sous forme de ce qu'on appelait des jathas, des bandes, et les dirigeants de la communauté, aidés en cela par les Maharajas Sikhs de quelques états princiers comme Patiala ou Faridkot, qui étaient situés du côté indien de la nouvelle frontière, ont activé cette organisation pour tenter donc de regrouper l'essentiel de la communauté Sikh dans quelques districts du Punjab central devenus indiens, en y amenant les Sikhs de l'Ouest, en particulier ceux des Canal Colonies, pour lesquels ils ont cherché à faire place nette par une expulsion massive des musulmans de l'Est de la province. Cependant, je ne voudrais pas donner l'idée que j'attribue aux Sikhs la responsabilité de la guerre civile, parce que mon problème n'est pas de décider des responsabilités. Il y a eu des milliers de pages qui ont été écrites par les uns et par les autres là-dessus. Mais donc, si vous voulez, les Sikhs n'ont pas été les seuls à pratiquer le nettoyage ethnique sur une grande échelle, car à l'ouest du Punjab, des groupes musulmans, formés aussi en partie de vétérans de la guerre, liés à la Ligue musulmane, ont pratiqué le nettoyage ethnique sur une échelle comparable contre la population hindoue et Sikh. En fait, ils avaient commencé ce nettoyage avant même la partition effective. Ainsi, du 12 au 16 août, la population hindoue et Sikh de Lahore a-t-elle été l'objet d'attaques systématiques qui ont entraîné des départs massifs vers l'Inde. Alors, à ce stade de l'analyse, il est nécessaire d'avoir à l'esprit ce qui faisait la spécificité du Punjab par rapport en particulier au Bengale, à savoir le fait que sa population masculine était fortement militarisée. On estime que la province avait fourni 48% des 2 millions d'hommes mobilisés en Inde pour la Seconde Guerre mondiale et dont beaucoup avaient participé à une série de campagnes en Afrique, en Libye, en Afrique orientale italienne, en Europe, campagne d'Italie, par exemple la bataille de Monte Cassino, les troupes indiennes ont joué un rôle important, en Birmanie, en Malaisie. On estime, alors je ne sais pas quelle est exactement la source de cette estimation, elle est peut-être un tout petit peu contestable, mais enfin on estime en général qu'un tiers des hommes âgés de 17 à 30 ans au Punjab avaient rejoint l'armée, et même s'ils n'avaient pas effectivement combattu, avaient reçu un entraînement militaire de base et savaient donc manier armes et explosifs. Parmi eux, la grande majorité était soit sikh, soit musulman, parce que les hindous avaient été moins mobilisés. Bon, c'est pourquoi la guerre civile a pris largement l'aspect d'un affrontement entre sikhs et musulmans. Alors, j'en arrive donc à la morphologie de la guerre, si vous voulez, les forces en présence et le déroulement des opérations rapidement. Alors, donc, ce qui fait qu'on a affaire à une guerre civile, c'est que les forces armées régulières des deux nouveaux États ne se sont pas affrontées. Elles allaient le faire au Cachemire à partir de novembre 1947, avec les conséquences qu'on connaît, hein, puisque le problème du Cachemire n'est toujours pas réglé. Mais en fait, Inde et Pakistan étaient liés par une série d'accords et leurs forces armées étaient placées toutes les deux sous le commandement ultime d'un général britannique, Sir Claude Auchinleck. Enfin bon, en fait, c'est un de ces noms écossais qui ne se prononce pas comme il s'écrit, mais je ne me souviens plus comment ça se prononce, mais tout le monde l'appelait The Hawk, qui était donc chargé de superviser la division de l'ancienne armée des Indes, puisque les armées indiennes et pakistanaises étaient créées à partir d'éléments de l'ancienne armée britannique des Indes. Alors, et donc, Auchinleck présidait un Joint Defense Council qui se réunissait régulièrement, qui regroupait les chefs d'état-major des armées indiennes et pakistanaises pour suivre la situation au jour le jour. Et au moment de la partition, il existait même une force spéciale, la Punjab Boundary Force, formée d'unités des armées britanniques, indiennes et pakistanaises, qui étaient censées maintenir l'ordre dans les districts frontaliers. Mais elle a dû cependant être dissoute dès la fin août, parce qu'elle s'est révélée incapable d'assumer sa tâche, du fait d'une part de la difficulté que les militaires indiens et pakistanais avaient à travailler ensemble dans l'atmosphère d'hystérie généralisée qui régnait, d'autre part du fait aussi que les désordres ne se sont pas limités aux districts frontaliers, mais ont gagné l'ensemble de la province. Donc, à partir du 1er septembre, ce sont les armées indiennes et pakistanaises qui ont reçu la mission d'assurer l'ordre et de permettre l'acheminement des réfugiés d'une partie du Punjab à l'autre, car on avait finalement réalisé des deux côtés qu'un échange intégral de population était inévitable. Mais pendant près de deux mois, les armées n'ont pas réussi à contrôler la situation et près de 4 millions de personnes ont été évacuées dans des conditions épouvantables, beaucoup perdant la vie au cours du voyage. Et c'est seulement le 20 octobre qu'a été mis en place, par accord entre les deux États, un mécanisme efficace d'évacuation qui a réalisé le transfert des 1 800 000 hindous et sikhs qui restaient encore à l'ouest, vers l'Inde, et des 3 200 000 musulmans qui restaient encore à l'est, vers le Pakistan. Donc, fin décembre, le nettoyage ethnique commencé dans la violence avait été accompli. Il ne restait pratiquement plus d'hindous et de sikhs au Punjab pakistanais et guère de musulmans au Punjab indien. Au total, 9 à 10 millions de personnes se trouvaient dans la situation de réfugiés. Alors, je reviens sur la période d'août à octobre qui a vu se dérouler donc une véritable guerre civile entre communautés à laquelle les États ont été incapables de mettre fin. Alors, les combattants dans cette guerre furent rarement des civils ordinaires, même si ces derniers fournirent souvent aux combattants un soutien logistique sous forme d'approvisionnement en nourriture, sous forme de renseignements sur l'ennemi, c'est-à-dire avant tout les civils de l'autre communauté, et ont prêté souvent aussi main forte aux combattants, mais n'ont pas été véritablement au cœur de la violence. Donc la grande majorité des combattants appartenaient à des armées irrégulières liées à des partis politiques et à des communautés religieuses. Donc les trois principales forces engagées furent, alors d'une part, donc les bandes sikhs dont j'ai déjà parlé, liées aux Akali, désignées parfois sous le nom d'Akali Fauj, armée Akali, même si ce n'est pas une véritable armée au sens traditionnel du terme, mais il semble qu'il y avait quand même une sorte de quartier général qui était installé dans un état princier de l'est du Punjab et d'où partaient des directives régulièrement. Donc il y avait d'une part ces bandes Akali, d'autre part les National Guards musulmans liés à la Ligue musulmane et enfin les milices de l'organisation extrémiste hindoue, le RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, ou Association des volontaires nationaux, organisation à laquelle je vous signale en passant que le Premier ministre indien actuel appartient. Alors, de toutes ces forces, les mieux organisées étaient les Jatha Sikhs. Bon, c'était des unités qui pouvaient aller de 20 à 200 hommes. Elles étaient commandées par d'anciens officiers de l'armée, dont certains avaient rejoint l'armée nationaliste pro-japonaise, Indian National Army, créée en 1943 par le dirigeant congressiste dissident Subhash Chandra Bose. Et elle comprenait une majorité de vétérans bien entraînés. Elle se caractérisait par une très grande mobilité, une forte discipline et un degré élevé de professionnalisme dans la conception et l'exécution des actions armées. Dans l'est du Punjab, elle bénéficiait en outre de l'aide logistique des petites forces armées de certains états princiers comme Patiala et Faridkot, dont les souverains étaient sikhs. Par ailleurs, elle jouissait aussi de complicité dans l'armée indienne, dont les sikhs constituaient environ 20% des effectifs. Alors les National Guards étaient moins professionnels, bien qu'ils aient eu dans leur rang aussi beaucoup de vétérans, mais l'armée et la police pakistanaise leur prêtèrent souvent main forte, soit activement en participant aux opérations, soit passivement en n'intervenant pas pour les empêcher d'agir. Bon, le RSS, surtout implanté parmi les hindous des villes, était la moins professionnelle de ces armées régulières, et après que les hindous aient été chassés des villes de l'ouest comme Lahore, et qui n'ont pas été capables de défendre, il n'a pas joué un rôle très important, bien qu'il ait bénéficié aussi de complicité dans la police et dans l'armée indienne. Alors, on ne dispose pas d'évaluation chiffrée des combattants appartenant à ces différentes forces, mais il se comptait certainement par milliers, voire davantage. Alors il faut en outre compter avec des armées privées, comme par exemple celle de la secte islamique hétérodoxe Ahmadiyya, ou d'autres levées par de grands propriétaires fonciers. Alors l'approvisionnement en armes ne posait pas trop de problèmes, car des vols d'armes des dépôts de l'armée par des soldats démobilisés avaient eu lieu sur une grande échelle en 1945, et par ailleurs des soldats des armées indiennes et pakistanaises, voire certains militaires britanniques, n'hésitaient pas à livrer ou à vendre des armes aux irréguliers. L'approvisionnement en explosifs venait en partie des dépôts de l'armée, mais sans doute aussi en partie de vols sur des chantiers, comme c'est toujours le cas dans ce genre de circonstances. Alors, les modes d'action de ces groupes étaient de trois ordres. Attaque de villages et de quartiers pour en faire partir les habitants, dont une partie était massacrée dans leur fuite, embuscade contre des convois de réfugiés à pied, accompagnés de tueries, enfin attaque de trains de réfugiés, opérations les plus complexes, car nécessitant des sabotages de voies pour provoquer des déraillements. Donc un exemple du premier type d'action est l'attaque menée contre un gros village à population sikh dans le district de Mianwali au Punjab occidental. Elle fut menée par ce que les sources décrivent comme des Muslim mobs, mais avec l'aide de soldats de l'armée pakistanaise qui engagèrent même des tanks. 3000 des 6000 habitants furent massacrés, 800 femmes enlevées, le reste prit la fuite. On voit qu'il s'agit d'une guerre asymétrique là, puisque des villageois armés au mieux de pétoirs sont attaqués par une force formée en partie de militaires professionnels et disposant d'un armement moderne. Alors même si cet assaut semble exceptionnel par l'ampleur des moyens mis en œuvre, il révèle le professionnalisme des slaves dans beaucoup d'actions qui confirment qu'on est bien dans une guerre. Alors les attaques de convois à pied n'eurent pas toujours le caractère massif de cet assaut. Souvent les convois étaient harcelés par des bandes qui opéraient dans les champs voisins des routes où elles pouvaient se mettre en embuscade. Certains convois de plusieurs milliers de réfugiés furent ainsi attaqués plusieurs fois, à chaque embuscade, massacre, enlèvement de femmes et de jeunes filles. Alors, en règle générale, les convois avaient une escorte militaire, mais celle-ci était rarement en mesure de protéger efficacement les réfugiés. D'ailleurs, parfois, les assaillants s'attaquèrent aux escortes si elles paraissaient déterminées à les empêcher d'agir. Il y a un certain nombre de militaires des deux armées qui ont été tués dans ces incidents. Alors, c'est seulement quand les deux armées ont mis sur pied fin octobre un système d'escorte mixte que les attaques ont cessé et que les convois de réfugiés ont pu se déplacer sans faire l'objet d'attaques. Donc les attaques de train furent certainement celles où le professionnalisme des combattants fut le plus visible. Elles combinaient en général une infiltration dans les trains avec un sabotage de voies pour provoquer le déraillement. Ce sabotage impliquait le plus souvent l'usage d'explosifs. Souvent, les assassins bénéficièrent de complicité parmi le personnel des chemins de fer qui leur permettait de connaître les horaires des trains théoriquement tenus secrets. Une fois le train arrêté en rase campagne, l'escorte militaire était prise sous un feu croisé qui venait donc à la fois du train et des gens placés en embuscade, et le plus souvent, elle s'enfuyait. Et à ce moment-là, les passagers étaient massacrés, le plus souvent à l'arme blanche. Alors ceux qui échappaient au coup mouraient souvent d'ailleurs de faim ou de soif avant que les secours puissent les atteindre. Des dizaines de trains furent ainsi attaqués. Chacun transportait en moyenne 3 à 4 000 réfugiés, donc on mesure l'hécatombe provoquée par ces attaques qui s'arrêtèrent aussi après la fin octobre. Donc, après cette description sommaire, quelques réflexions. Cette guerre, elle mélangeait des traits modernes, bon, dans l'usage d'armes de guerre, d'explosifs, les tactiques utilisées qui avaient été apprises en général auprès de l'armée britannique pendant la guerre, et traits plus archaïques dans le recours aux armes traditionnelles telles que sabres, poignards ou faux, et la pratique systématique de mutilation sur les vivants comme sur les cadavres. Alors le trait le plus choquant de cette guerre, c'est l'incidence extrêmement élevée des viols de femmes pratiqués par les combattants et même des non-combattants des deux côtés. Un nombre incalculable de femmes, on n'a pas un bilan exact, mais y compris des fillettes, ont subi des viols, souvent accompagnés de mutilations. Beaucoup de femmes violées ont été ensuite tuées, mais d'autres ont été enlevées et mariées de force à des combattants, constituant ainsi des trophées de guerre. Donc la forte sexualisation de la violence guerrière, qui se traduit aussi dans la castration souvent pratiquée à l'égard des mâles de la communauté ennemie, révèle, d'après certains, une intention quasi génocidaire chez beaucoup de participants. Donc il s'agit d'exterminer jusqu'à la semence de l'ennemi, et en engrossant ces femmes, en quelque sorte, non seulement de l'humilier, mais finalement de viser à son anéantissement. Alors on sait que des phénomènes du même ordre se sont produits au cours des guerres civiles yougoslaves, en particulier en Bosnie, Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a absolument pas de précédent pour ce genre de viol de masse en Inde. C'était vraiment une nouveauté. Alors, en ce qui concerne donc les explications de cette violence, certains observateurs ont voulu voir dans ce qu'il faut bien appeler par certains côtés la sauvagerie de ces attaques, la résurgence d'atavismes ancestraux, en particulier des observateurs britanniques de l'époque. Mais d'abord, il y a souvent, dans leurs observations, il y a souvent un côté assez raciste. Mais malgré tout, on peut leur objecter que les populations appartenant aux différentes communautés vivaient plutôt en bonne entente au Punjab depuis des siècles, particulièrement à la campagne. S'il y avait eu des émeutes, c'était en général toujours dans les villes. Je suis pas, si vous voulez, moi, j'ai pas fait un travail vraiment de première main sur ces violences. Hein, c'est essentiellement à partir de la littérature. Donc, je peux pas prétendre avoir mettre en avant une explication qui serait absolument définitive ou quoi que ce soit. Enfin, disons, moi, je suis quand même assez tenté par une explication de type Hobbesien qui prend en compte une analyse de la question de l'État. C'est-à-dire qu'on remarque que le stade paroxystique de la violence, quand elle prend le caractère d'une véritable guerre, coïncide avec une éclipse relative de l'État. L'État colonial au Punjab avait un caractère autoritaire et paternaliste particulièrement marqué. Et donc, tout d'un coup, cet État colonial cesse d'exister, mais les États postcoloniaux étaient en phase d'installation et n'exerçaient pas encore un contrôle total sur le territoire. Alors, les personnels de l'État étaient dans un état de flux et d'incertitude. Ils avaient donc tous les fonctionnaires avaient l'option de choisir soit l'Inde, soit le Pakistan. Et la majorité des fonctionnaires qui étaient hindous, parce que la communauté hindoue était plus éduquée que la communauté musulmane, avaient choisi l'Inde. Et donc, l'État pakistanais souffrait d'un manque cruel de personnel aux échelons supérieurs et moyens. Mais l'État indien, dans la nouvelle province du Punjab oriental, mit aussi quelque temps à trouver ses marques. Et il y a donc eu au Punjab, pendant quelques mois, une situation de quasi-anarchie. Et donc, en termes obsiens, on peut parler d'un retour à l'état de nature, à la lutte de chacun contre tous, même si ce n'est pas en l'occurrence la lutte du père contre le fils, et une situation dans laquelle seule la communauté, et en l'occurrence la communauté religieuse, offrait aux individus l'espoir d'une certaine protection, même si cet espoir était en fait complètement illusoire. Et on remarque d'ailleurs, et c'est ça qui m'amène à penser que cette hypothèse n'est pas totalement dépourvue de base, que dès que les États se sont consolidés, des deux côtés, la guerre civile entre communautaires prit fin. Alors, voilà. Juste pour terminer, on notera que cette guerre civile a conduit à une homogénéisation religieuse du Punjab pakistanais, devenu presque exclusivement musulman, bien qu'une communauté chrétienne soit restée, qui représente environ 2% de la population. Les chrétiens n'ont pas été embêtés à cette époque. Tandis que du côté indien, on avait une situation plus complexe avec un contraste entre un Punjab central à légère majorité sikh et un Punjab oriental à nette majorité hindoue. Et ça conduira en 1966, à la suite d'une forte agitation sikh, à un nouveau partage de la province entre État du Punjab à majorité sikh et de langue punjabi et État de l'Haryana et de l'Himachal Pradesh à majorité hindoue et de langue hindi. Comme on sait, certains extrémistes sikhs ne se sont pas satisfaits de cette situation et ont lancé dans les années 80 un mouvement pour un État sikh indépendant, qu'ils ont appelé le Khalistan, qui a fait l'objet d'une forte répression par l'État indien, en particulier en 1984, avec l'opération Blue Star, un assaut contre le temple d'or d'Amritsar, donc le saint des saints pour les sikhs, entraînant en représailles l'assassinat d'Indira Gandhi par deux de ses gardes du corps sikh, suivi d'un sanglant pogrom anti-sikh à Delhi, qui a fait 3000 morts. Donc ça, c'est les conséquences en Inde. Mais au Pakistan, à partir des années 80, on a vu des affrontements croissants entre sunnites et chiites, savoir qu'il y a en gros 20-25% de chiites au Punjab pakistanais. Et donc, comme il y avait eu une sorte de remobilisation politique de la communauté chiite à la suite de la révolution iranienne, on a assisté à des affrontements souvent de grande ampleur, et dans un district en particulier, le district de Jhang, ça a pris l'aspect d'une quasi-guerre civile. Et puis il faudra évidemment parler aussi de l'action des talibans au Punjab. Donc on voit que la guerre civile de 1947 a laissé des traces durables dans une région qui reste traumatisée par son souvenir. Merci.
Merci pour cet exposé convaincant et complet sur des épisodes qui sont très mal connus pour nous. Je veux dire, ça ne fait pas partie de la culture générale. Je sais bien qu'il y a le livre de Lapierre et
Collins.
Voilà. Mais c'est du journalisme. Il y a le film Gandhi aussi, où certaines scènes concernent cette... Mais prendre le phénomène comme objet d'étude, enfin, il me semble tout à fait utile. Alors, je vais tout de suite donner la parole à M. Massé, mais avant que j'oublie, il y a un témoignage littéraire accessible en français d'un écrivain sikh, je crois, donc il doit s'appeler Singh, et c'est un recueil de nouvelles qui ont été traduites. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps.
Mais il y a cette Train to Pakistan.
Ça doit être ça.
Oui, Train to Pakistan, Kushwant Singh. Oui.
Voilà, et qui est traduit en français.
Oui, oui.
Et où il y a toute une série d'épisodes.
Oui, alors ça raconte, en particulier, il y a un épisode d'attaque de train.
Voilà, et puis de viol également. C'est atroce, enfin, c'est atroce, mais par un écrivain talentueux.
Il y a aussi beaucoup de films. Il y a beaucoup de films qui évoquent.
Donc, rappelez, comment il s'appelle ?
Kushwant Singh.
Kushwant Singh. Voilà, il est mort l'année dernière, où il y a deux.
Oui, oui, c'est ça. Et le titre anglais, c'était Train to Pakistan. Donc,
voilà, vous trouverez ça sur Amazon. Bien. Nous refranchissons un océan pour aller en Colombie où on a affaire à des événements de nature, me semble-t-il, substantiellement différents. On posera des questions tout à l'heure aux deux, enfin, communication.
Monsieur le professeur, je vous remercie. Et je vous remercie aussi pour cette invitation qui m'a permis de découvrir, je dois l'avouer, tout un tas de choses que j'ignorais totalement et qui sont absolument passionnantes. Alors moi, je vais vous parler cet après-midi d'un cas effectivement assez différent, mais qui permet également d'aborder le concept de guerre civile et de questionner ou de révéler certaines ambiguïtés autour de ce concept. Donc le cas colombien est assez emblématique, ou tout du moins illustratif, de ces ambiguïtés. L'idée de guerre civile n'est pas nouvelle en Colombie. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le pays a connu de nombreux conflits, la plupart qualifiés de guerre civile. Les suites de la guerre d'indépendance, tout d'abord, puis les conflits ou les guerres entre libéraux et conservateurs, tout au long du XIXe siècle, qui ne sont pas spécifiques à la Colombie, qui sévissent, ces guerres, ces conflits entre libéraux et conservateurs qui sévissent dans la plupart des pays d'Amérique latine, et dont en Colombie, la plus sanglante et la plus célèbre est la guerre des 1000 jours, qui fit plus de 100 000 morts sur une population à l'époque de quelque 3 millions d'habitants. La guerre des 1000 jours qui a lieu entre 1900 et 1902. Donc 100 000 morts pour une population de 3 millions d'habitants, on retrouve des proportions assez importantes, je crois assez proches de ce que M. Jean Meyer nous apprenait sur les Christiades. Et donc c'est tout à fait important. Au XXe siècle, la guerre qui opposa les libéraux et conservateurs entre 1946 ou 1948, là aussi il y a des querelles d'historiens, et 1957, est sans doute la plus connue, car elle fit encore davantage de morts et fut particulièrement violente et cruelle. Presque 300 000 morts en à peine plus de 10 ans dans un pays qui, à l'époque, comptait à peine plus de 10 millions d'habitants. C'est pourquoi on appellera cette période, cette époque, la violencia, la violence, avec un V majuscule, pour traduire l'ampleur et la cruauté de ce conflit. Le conflit actuel, héritier en partie de la période de la violencia, et qui commence au début des années 60, après la révolution cubaine, n'est pas non plus en reste de son lot de victimes et autres horreurs. Ce conflit, qui dure depuis plus de 50 ans, a déjà fait plus de 220 000 morts, plus de 2 000 massacres ont été recensés, 25 000 personnes ont été portées disparues, et 6 millions de personnes ont été déplacées par le conflit, déplacé interne. Ce conflit est à la fois, ou pourrait à la fois être qualifié de guerre paysanne, de guerre révolutionnaire et de guerre sauvage, pour reprendre les termes utilisés par le professeur Bechler pour ce colloque. Le conflit actuel colombien présente un certain nombre de traits typiques, possède des caractéristiques communes ou répond, du moins sur le papier, à un certain nombre de critères des guerres civiles. Et pourtant, contrairement aux autres guerres internes qui frappèrent la Colombie au cours des 19e et 20e siècles, que je viens de vous mentionner, qui furent toutes ou presque qualifiées de guerre civile, le terme de guerre civile n'a pas ou a très peu été employé pour désigner le conflit actuel colombien. Un bref débat a eu lieu au début des années 2000, mais il fut assez rapidement refermé. On en vient donc à la question principale que je vais essayer de développer. Peut-on parler de guerre civile pour qualifier le conflit actuel ? En fait, le terme de guerre civile ne figure pas dans le caractère, ne figure pas dans, la, dans le vocabulaire pardon, colombien pour caractériser ce conflit. Et il ne figure pas dans le vocabulaire en partie parce que la guerre civile, ou parler de guerre civile pour caractériser, pour qualifier le conflit actuel, ne va pas de soi. Si l'on prend une des caractéristiques des guerres civiles, c'est la dimension politique des guerres civiles, ou le caractère politique des guerres civiles, deux parties opposées, avec deux projets politiques différents, dans une même espace ou même entité politique, on a bel et bien en Colombie, pour qualifier le conflit actuel, cette opposition dans un même espace entre deux visions, entre deux projets politiques différents et antagonistes. Donc à l'origine, on a réellement une dimension politique. Mais progressivement, d'autres acteurs vont se greffer, vont intervenir dans le conflit et vont venir brouiller les cartes et compliquer la lecture que l'on peut faire du conflit colombien. À l'origine, donc, le conflit est bel et bien politique car... Je vais essayer de vous expliquer brièvement certaines origines. La communication écrite rentrera davantage dans les détails. Mais globalement, les guérillas qui prennent le maquis ou qui se constituent ouvertement en guérilla au début des années 60, après la révolution cubaine, héritent, en tout cas pour les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, sont les héritiers des groupes d'autodéfense libéraux qui avaient combattu durant la période de la violencia et qui ne se sont pas démobilisés. Donc, la création des FARC, la révolution cubaine, va donner un argument supplémentaire pour créer un mouvement révolutionnaire qui va se proclamer d'obédience marxiste-léniniste, mais les fondateurs des FARC sont des anciens combattants des groupes d'autodéfense paysans, libéraux, qui... pour différentes raisons, décide de ne pas rendre les armes. Donc on a une motivation relativement politique qui, évidemment, n'exclut pas d'autres motivations sociales et économiques. De l'autre côté, on a un projet contre-révolutionnaire qui, très rapidement, est mis en place par le gouvernement colombien, avec l'aide, j'y reviendrai, des États-Unis, mais qui... basiquement s'oppose aux prétentions, aux vues politiques révolutionnaires des mouvements de guérilla. Donc que l'on prenne, que l'on fasse une analyse au sens clausewitzien ou une analyse en termes marxiste-léniniste, on peut, sans trop générer de polémiques, considérer que le conflit colombien a une origine en partie essentiellement politique. Mais petit à petit, ce caractère ou cette dimension politique va s'estomper, va se brouiller par l'intervention d'autres acteurs mus par d'autres visées ou ces mêmes acteurs qui vont progressivement développer, changer de motivation en grande partie liée au financement de ces groupes par l'argent du trafic de drogue. C'est-à-dire que l'argent du trafic de drogue. Le trafic de drogue en Colombie commence dans les années 70, se développe dans les années 80, puis ensuite continue à prendre une ampleur considérable dans les années 80 jusqu'aux années 2000. mais l'argent de la drogue va mettre à mal cette vision quelque peu romantique de la guérilla, et on va assister à une certaine criminalisation des guérillas. Guérillas qui ne vont avoir de cesse de revendiquer ou de continuer à revendiquer le caractère politique de leurs revendications, mais dont, tout du moins pour certains groupes, pour certaines factions, pour certains fronts de guérillas, vont se criminaliser et vont finalement laisser au second plan un certain nombre de revendications politiques. Dans le même temps, l'État est incapable de faire face à cette menace de la guérilla à partir du début des années 80, c'est-à-dire à partir du moment où les groupes de guérilla bénéficiant de l'argent de la drogue, du trafic de drogue, se renforcent et acquièrent un véritable arsenal, se renforce tant sur le point de vue humain que matériel. Donc l'État devient de plus en plus incapable de faire face et va autoriser la création d'un certain nombre de groupes au départ considérés comme d'autodéfense qui vont rapidement se transformer en groupes paramilitaires, là aussi en grande partie grâce à l'argent de la drogue. Alors ces groupes paramilitaires ou ces groupes d'autodéfense qui, donc de droite, d'extrême droite qui se transforment en groupes paramilitaires ont différentes origines. Globalement, ce sont les narcotrafiquants qui, pour protéger leurs négoces, vont créer ces milices armées, mais aussi les grands propriétaires terriens qui font face aux extorsions, aux menaces, aux enlèvements des groupes de guérilla. Donc, je résume brièvement et de façon un peu trop schématique, mais le caractère politique du conflit n'est pas réellement en jeu, il s'estompe, mais il revient aussi à la fin des années 80, au début des années 90 et encore davantage maintenant, il revient en scène. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin des années 80, un groupe qui s'appelle l'Union Patriotica, l'Union Patriotique, constitué de membres des FARC, en partie de membres des FARC du Parti communiste colombien, qui est illégal à l'époque, décide de rentrer dans le jeu politique, mais ils se font exterminer. On estime qu'il y a eu plus de 3000 morts, 3000 membres de ce groupe qui ont été éliminés. Ce qui, d'une certaine façon, renforce le caractère politique des FARC à une époque où elles étaient complètement imprégnées du trafic de drogue. Actuellement, les négociations elles-mêmes qui ont commencé il y a 2 ans, du moins de façon officielle, un peu plus il y a eu des pré-négociations, renforcent également le caractère politique, puisque tant les FARC que le gouvernement mettent l'accent sur le caractère politique des FARC pour justifier une négociation et pour justifier un certain nombre de leurs revendications. Deuxième point, l'idée sans doute exagérée que certains pourraient avoir des guerres civiles opposant 50% d'une population à 50% d'un autre camp ne s'applique pas non plus dans le cas colombien. La Colombie n'est pas une guerre d'un camp contre l'autre, ni de tous contre tous. Au départ, les FARC étaient très peu nombreux. Quand je dis au départ, ils étaient très peu nombreux, mais pendant plus de 15 ans, la date officielle de la création des FARC est 1964, jusqu'à la fin des années 70, jusqu'à la révolution sandiniste de 1978-1979, les FARC ne comptent pas plus de 800 personnes. Ce sont davantage des groupuscules qui ne constituent absolument pas une menace pour l'État colombien. Avec donc l'argent du trafic de drogue, ils vont se renforcer et atteindre jusqu'à plus de 20 000 hommes. Dans le même temps, l'armée colombienne se renforce au cours des années 90-2000, mais l'armée colombienne est relativement, ou durant un certain temps, reste relativement sous-équipée, sous-armée, tant en hommes qu'en matériel. Donc on a une population qui ne se sent pas impliquée dans le conflit. Le conflit a essentiellement lieu dans les campagnes, alors que la population colombienne devient progressivement majoritairement, habite majoritairement dans les villes. On est actuellement à 70% de population citadine et 30% de population rurale. Donc la population colombienne ne se sent pas concernée. Il faut dire également que les FARC, aujourd'hui, c'était peut-être un peu davantage il y a encore 20 ans, mais les FARC Aujourd'hui, pour des raisons multiples sur lesquelles je reviendrai, et notamment en raison des exactions qu'elles ont commises, les FARC bénéficieraient aujourd'hui d'un soutien entre 3 et 10% de la population, ce qui est à la fois beaucoup et peu. Mais nous ne sommes pas dans des situations centra-américaines où, par exemple au Salvador, au Nicaragua, il y avait réellement deux camps qui s'opposaient, même si c'était un peu plus complexe que cela. Ce qui a amené un certain nombre d'auteurs, et notamment Daniel Pecot, à qualifier, à parler de, non pas de guerre civile, mais de guerre contre les civils ou d'une guerre contre la société. Certains ont même parlé d'une la société prise en otage. C'est peut-être exagéré, mais ça reflète assez bien, disons, le caractère finalement restreint, même si, quand je dis restreint, il ne s'agit pas du nombre de victimes, mais le caractère, la grande majorité de la population ne se sent pas concernée. Alors, de l'autre côté, on a également un certain nombre de groupes d'autodéfense qui, comme je vous l'ai mentionné, ont été autorisés, ont été favorisés, ont été soutenus par l'État, qui se transforment ensuite très rapidement en groupes paramilitaires. Mais ces groupes paramilitaires s'autonomisent des forces armées et l'armée en vient à les combattre. C'est-à-dire que l'idée qu'on aurait d'une guerre de tous contre tous ou de deux camps qui s'opposent est également battu en brèche. Nous avons des groupes paramilitaires qui sont au départ constitués pour aider l'armée, même si évidemment ça ne se fait pas de façon officielle. Ces groupes paramilitaires en viennent à être combattus par l'armée. Et on a même ces groupes paramilitaires vont s'allier avec un certain nombre de leaders politiques pour assurer leur fin. C'est ce qui a donné lieu en Colombie à ce qu'on a appelé la parapolitique. Alors, pour résumer un petit peu la parapolitique, je reprends une expression qui n'est absolument pas de moi, de Pierre Asner, de la dialectique du bourgeois et du barbare. On peut expliquer la parapolitique par un embourgeoisement des barbares et une barbarisation des bourgeois. Les barbares étant les groupes paramilitaires qui commettent un certain nombre d'exactions, sur lesquelles je vais revenir, et qui vont essayer de gagner une certaine légitimité politique en s'alliant, en soutenant, en pressionnant des leaders politiques régionaux. Mais on a aussi des groupes, des leaders régionaux qui vont se barbariser en cherchant un appui et un financement des groupes paramilitaires pour assurer leur existence, leur élection. Donc on a finalement un certain nombre de tendances qui font que parler d'un camp contre l'autre devient assez et beaucoup trop schématique. On a des divisions internes également à l'intérieur des guérillas. Il faut savoir que les guérillas qui se créent au début des années 60, on a essentiellement deux guérillas, les FARC, les plus importantes, d'obédience marxiste-léniniste, et le LN, qui est davantage d'obédience pro-cubaine et en même temps théologie de la libération. Donc ces guérillas, au départ, ne s'opposent pas. Ce sont, comme dans tous les pays d'Amérique latine à l'époque, il y a à chaque fois des dissensions, il y a des divergences, il y a des influences diverses. Mais petit à petit, ces guérillas vont accentuer leurs divergences pour des raisons à la fois idéologiques et à la fois très prosaïques, pragmatiques, contrôle des territoires, et vont même, dans certains cas, jusqu'encore récemment, se combattre entre elles. On a eu, au cours des années 2000, des zones ou des territoires en Colombie où le LN, donc Théologie de la Libération, combattait les FARC, marxistes-léninistes, chaque camp étant plus ou moins allié, parfois avec des groupes paramilitaires. C'est assez surprenant, on a du mal à voir comment ça peut se produire, mais on assiste, je dirais, donc à des guerres qui seraient presque fratricides. Les groupes paramilitaires qui également se sont constitués et qui sont officiellement démobilisés entre 2003 et 2006 vont ensuite se recomposer, et la recomposition, cette recomposition va se faire dans le sang. Chaque groupe essayant de supplanter ou de reprendre le pouvoir, on va vraiment avoir des tendances fratricides. Alors, ce matin, le professeur Contamine parlait de guerre plus que civile. C'est une idée qui me semble assez attrayante, qu'il faudrait que j'approfondisse pour, dans le cas colombien, mais il me semble qu'il y a, quelque chose de cela, dans la mesure où, même dans certaines familles, on a certaines familles où certains enfants sont dans la guérilla, d'autres sont dans les groupes paramilitaires, d'autres sont dans l'armée, et cela change. Cela change et cela évolue. On a donc tout un certain nombre de dynamiques qui rendent difficile l'idée qu'en Colombie, le conflit oppose un camp bien défini à un autre bien défini. Alors enfin, on a un point très important à mettre en avant, à mon sens, c'est que la distinction entre amis et ennemis, la distinction classique, a longtemps été difficile à cerner en Colombie. Au départ, la guérilla, effectivement, est opposée au gouvernement, mais la guérilla, qui est également opposée aux paramilitaires, en vient à nouer certaines alliances, ou à conclure certains pactes avec les paramilitaires, pour des raisons non pas idéologiques, mais pour des raisons pragmatiques. Et donc il y a une notion qui a été employée par Germaine Tillon, que reprend Luis Martinez dans sa thèse sur la guerre civile en Algérie, qui me paraît assez pertinente pour qualifier ces dynamiques, c'est la notion d'ennemis complémentaires. Les paramilitaires ont besoin, leur raison d'être, c'est l'existence de la guérilla. Ils se créent officiellement pour lutter contre la guérilla parce que l'État est incapable ou est insuffisamment capable de lutter contre la guérilla. Donc sans l'existence de la guérilla, les paramilitaires n'ont plus de raison d'être. Mais les FARC ont également besoin progressivement de l'existence de ces groupes paramilitaires pour justifier en partie le fait de continuer à lutter contre l'État. L'État met en place un certain nombre de réformes qui pourraient et qui, dans un certain cas, délégitiment le combat des groupes de guérilla. Mais les guérillas, notamment avec le renforcement des groupes paramilitaires dans les années 2000, vont prendre prétexte presque de l'existence et du renforcement de ces groupes paramilitaires pour dire, eh ben, vous voyez, l'État est un État corrompu, l'État est un État fasciste, ces groupes paramilitaires sont complètement à la botte de l'État, ce qui dans certains cas est vrai, mais ce qui devient de moins en moins vrai. Et donc cela va justifier ou va contribuer à justifier l'existence et la continuité du combat des FARC. Donc cette notion d'ennemi complémentaire me paraît assez intéressante, et petit à petit, cette notion d'ennemi complémentaire fait qu'on a donc une lecture où on a une frontière de plus en plus floue entre les combattants d'un côté et les combattants de l'autre. On assiste même à des transferts. Par exemple, au début des années 90, un certain nombre de groupes de guérilla, j'ai mentionné les deux principaux, je ne vous ai pas mentionné les autres, mais dans les années 70, il y a d'autres groupes qui se constituent. Et dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90, les petits groupes de guérilla qui s'étaient constitués dans les années 70 vont négocier la paix, négocier une démobilisation en échange de leur réintégration dans la vie civile. Et une partie des combattants de ces groupes de guérilla, notamment d'un groupe bien spécifique, l'OPL, va passer du côté des groupes paramilitaires. C'est-à-dire que les combattants qui combattaient dans une région, notamment l'Urrava, qui est la région frontière entre la Colombie et le Panama, et où l'OPL était fortement implanté, ces combattants vont, pour la plupart, rejoindre les rangs des groupes paramilitaires et combattre soit d'anciens camarades qui, certains se sont démobilisés réellement, d'autres sont démobilisés, sont pas chez les FARC, mais il va y avoir des combats donc, entre d'anciens combattants qui étaient dans les mêmes rangs. Ce qui rend donc assez surprenant la situation et ce qui rend la notion d'ami-ennemi de moins en moins pertinente. Et puis on a eu, donc je l'ai mentionné, mais on a eu aussi au cours des années 2000 des alliances donc, entre groupes paramilitaires et groupes de guérilla ponctuels. Souvent un chef de guérilla va passer un accord avec un chef paramilitaire pour Ça peut être, moi j'ai un chargement de drogue, vous pouvez me le faire passer, ça doit passer par votre territoire, vous me donnez des armes en même temps, etc. etc. Dans certains cas, l'ELN, donc le second groupe de guérilla, s'est allié avec les paramilitaires pour combattre les FARC, qui, les FARC ont toujours considéré l'ELN comme une guérilla un petit peu qui est sans importance. Donc on a des dynamiques qui réellement brouillent les cartes. Donc finalement, on a un conflit politique avec deux visions politiques opposées, mais dont, au début du conflit et maintenant dans les négociations, le caractère politique semble assez évident. Si on regarde un petit peu et on analyse les tendances, les dynamiques plus précises, ça ne s'est pas passé de façon linéaire. Il y a eu un certain nombre de détours ou de dynamiques bizarre. Il faudrait qualifier sans doute le terme de bizarre de façon plus précise, mais pour l'instant, je ne trouve pas le terme. Alors, une autre raison qui a été mise en avant pour contester contester le caractère de guerre civile du conflit colombien, c'est la dimension interne ou la dimension domestique du conflit colombien. Alors, effectivement, le conflit colombien a lieu en Colombie, sur un espace, un pays indépendant. Ce n'est pas tant cela qui est remis en cause. Mais certains auteurs réfutent l'idée de guerre civile sous prétexte que les élites colombiennes ont combattu les guérillas avec des idéologies importées. Alors, l'argument n'est pas forcément recevable, mais il est intéressant de voir quelles sont les explications. Quand les guérillas donc, se forment, au début des années 60, on est effectivement en pleine guerre froide, post-révolution cubaine, et la politique donc, du gouvernement colombien de contre-guérilla est non seulement inspirée, mais financée et soutenue par les États-Unis. Alors au début, c'est l'Alliance pour le Progrès, c'est relativement pacifique, mais ensuite, il y a ce qu'on avait, un plan assez connu, le plan de Lasso, qui, entre parenthèses, va renforcer la création des FARC, c'est-à-dire que les FARC, en tout cas le mythe fondateur des FARC, naît à la suite d'un bombardement de l'armée colombienne soutenue par les États-Unis sur un certain nombre de combattants qui, sans ce bombardement, auraient sans doute continué à exister ou à survivre, mais n'auraient pas pris prétexte de ce bombardement pour embrasser davantage encore l'idéologie marxiste-léniniste et ensuite revendiquer un combat contre le gouvernement colombien. Donc la guerre contre le communisme durant la guerre froide, dont se prétend évidemment le gouvernement colombien, laisse penser, tout du moins à certains, que finalement c'est une guerre importée et donc l'idée de guerre civile pourrait être quelque peu brouillée. Ensuite, on a, à la fin des années 70, au début des années 80, la guerre contre la drogue, ce qu'on a appelé la guerre contre la drogue. Les guérillas se finançant par la drogue, il était relativement facile de la part du gouvernement colombien, mais aussi et surtout de la part des États-Unis, de dire le conflit colombien n'est pas un conflit révolutionnaire. Finalement, ces groupes de guérillas se sont criminalisés, ce sont des trafiquants de drogue. Donc, on va mener une lutte, une guerre contre la drogue. Et les critiques donc, disent cette guerre contre la drogue est importée, est imposée par les États-Unis, ce qui enlève ou ce qui rend un peu plus difficile le fait de considérer le conflit colombien comme une guerre civile. Et puis, après le 11 septembre, le gouvernement colombien adhère et importe le discours de la guerre contre le terrorisme en Colombie. Donc, tout d'un coup, les groupes de guérilla sont qualifiés de groupes terroristes. Ils étaient déjà dans la liste des organisations terroristes des États-Unis avant le 11 septembre, mais avant le 11 septembre, c'était des groupes de guérilla. Et après le 11 septembre, et plus exactement suite à il y avait des négociations également à l'époque, les négociations qu'on appelait du Caguan. Quand les négociations du Caguan échouent, on a un changement de discours très net et qui fait que à la fois les États-Unis, mais aussi le gouvernement colombien, ne parlent plus de lutte contre la guérilla, qualifient ces groupes de groupes narcoterroristes. Au cours des années 2000, on a même un président colombien qui va nier le caractère de conflit interne, va dire qu'il n'y a pas de conflit interne en Colombie. Nous ne faisons pas face à un conflit interne, nous faisons face à une menace terroriste. Donc tous ces éléments viennent rappeler que, enfin, posent question et laissent penser que certains, de façon délibérée, refusent, même si le terme de guerre civile est sans doute impropre pour qualifier le conflit colombien, refusent l'idée même de penser une guerre civile. Il y a même, au début des années 2000, ce que j'ai appelé une instrumentalisation ou une exagération de la menace de régionalisation du conflit colombien. C'est-à-dire que le gouvernement colombien va exagérer les risques d'expansion du conflit aux frontières pour, premièrement, dire que ce n'est pas un conflit qui nous, interne, c'est un conflit tous les voisins et les États-Unis sont concernés. Donc à la fois pour un petit peu nier le caractère interne et éventuellement, on est à l'époque où le débat sur la guerre civile s'ouvre à peine, et puis aussi évidemment pour des raisons politiques, pour demander de l'aide et dire, ben voilà, il y a une co-responsabilité, ne nous laissez pas tout seul face au conflit colombien. Un autre facteur également pose question, c'est l'intervention, on en a parlé ce matin, je ne me rappelle plus qui l'a mentionné, mais l'intervention de... Alors, à la fois de conseillers militaires des États-Unis, mais aussi de mercenaires, on ne parle plus de mercenaires, mais de compagnies militaires et de sécurité privée qui interviennent en Colombie et qui font qu'effectivement, dans la mesure où ces acteurs sont relativement influents et présents dans le conflit colombien, jusqu'à quel point on peut vraiment parler de conflit interne ou de conflit domestique. Alors, le dernier point qui me semble assez intéressant et qui est le qualificatif de sauvage qui a été utilisé. Je crois que le terme est relativement impropre dans le cas colombien. Et il est vrai que le conflit colombien a été extrêmement atroce. J'ai cité quelques chiffres, tant au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Au niveau qualitatif, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, mais il faut quand même savoir qu'il y a eu énormément de viols, énormément de massacres, des décapitations à la tronçonneuse, utilisation de fours crématoires pour faire disparaître les victimes. Donc on est vraiment dans des pratiques assez horribles. Et on est dans les pratiques qui finalement ont été utilisées de façon pas symétrique, mais de part et d'autre. On a eu ce que, pour reprendre l'expression de René Girard, on a eu une rivalité mimétique assez évidente en Colombie, c'est-à-dire que des groupes commettant un certain nombre de crimes, d'autres vont commettre les mêmes crimes pour générer la terreur et pour essayer de contrôler des territoires. Mais cette cruauté ne signifie pas pour autant que le conflit est irrationnel, que la violence est aveugle, car je crois que, et ça a été montré de façon assez claire par de nombreux auteurs, ces violences répondent à une stratégie assez bien définie, générer de la terreur, et ces violences sont relativement rationnelles. Pour faire court et pour simplifier un petit peu, je reprends l'expression qui, évidemment, n'a pas été utilisée à ses fins, mais René Char, dans un de ses poèmes, dit « prévoir en stratège, agir en primitif ». Je crois que réellement, en Colombie, on a, de la part des acteurs armés, cette... évidemment, ils n'ont pas lu René Char, et ce n'est pas... Mais je crois que ça s'applique assez bien pour qualifier ce qui s'est passé, ou ce qui se passe en Colombie. Il me reste encore... 30 secondes. Alors, je vais essayer. Alors, en conclusion, il y a un dicton en Colombie, que je crois qu'on peut le retrouver dans d'autres pays, mais on dit souvent, si vous allez en Colombie un mois, vous écrivez un livre, si vous y allez un an, vous écrivez un article, et si vous y allez 10 ans, vous n'écrivez plus rien. Ça fait 18 ans que j'y suis, je vais m'efforcer quand même d'écrire quelque chose qui soit, j'espère, intelligible, mais c'est vrai qu'on a une certaine difficulté à appréhender la réalité, parce que les notions donc d'amis-ennemis, les dynamiques, font que, comme Garcia Marquez, on dit souvent que Garcia Marquez, donc prix Nobel colombien de littérature, n'a rien inventé quand il parlait du réalisme magique. Il est en deçà, de la réalité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a donc eu un conflit armé, mais un conflit armé qui n'a jamais donné lieu à une guerre totale. Donc on n'a pas eu de guerre totale, on n'a pas eu d'ennemi total. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques temps, c'est une évolution de cette conflictualité. On passe, ou on est passé, ou on est en train de passer d'un conflit traditionnel, armé, conflit asymétrique, à une criminalisation, à ce que j'appellerais une mafiaïsation du conflit colombien. On est passé d'une logique de la confrontation à une logique de la prédation, on est passé d'une logique de la différence à une logique de la compétition. Donc, même si demain on a un accord de paix, ce sera sans doute pas demain, mais peut-être en fin d'année ou l'année prochaine, un certain nombre de tendances ne vont pas disparaître du jour au lendemain, les violences ne vont pas disparaître du jour au lendemain, le narcotrafic ne va pas disparaître du jour au lendemain, et on risque de se retrouver dans une situation de ni paix ni guerre, qui a été utilisée évidemment dans d'autres contextes, mais où on aurait une certaine normalisation sans une certaine pacification, où l'on aurait un certain nombre d'enclaves mafieuses qui continuerait ou qui pourrait même se renforcer dans des régions plus ou moins reculées de Colombie. Donc là, au départ, on discutait la notion de civil ou d'un civil du conflit colombien, de la guerre. En ce moment, la question est de savoir si on a encore un conflit, si on va avoir un conflit, si on va avoir une guerre. Un accord de paix mettra sans doute fin au conflit armé de type traditionnel, mais des violences et des logiques mafieuses qui ne sont pas nouvelles vont sans doute se renforcer pour arriver à une situation de ce que j'ai qualifié dans un article récent de paix mafieuse. Je vous remercie.
Merci. Eh bien, la discussion est ouverte. Qui veut adresser des commentaires à l'un ou à l'autre de ces deux cas, tout de même substantiellement différents, mais qui posent l'un et l'autre, je crois, des questions fondamentales.
Rebondir sur l'intervention de M. Markowitz à propos de l'idée, je voulais savoir ce que vous en pensiez d'un enchaînement des violences et d'une inertie des violences, c'est-à-dire que depuis 1947, les cibles auraient changé, mais c'est une hypothèse, et je ne connais pas le Pakistan ou l'Inde, j'étais une fois en Inde, mais je ne connais pas le Pakistan, c'est-à-dire que une certaine culture de la violence serait née. Alors l'ennemi en 1947, c'était l'hindou et le sikh. Vous expliquez qu'on était passé ensuite aux violences entre sunnites et chiites. D'ailleurs, je me demandais qui étaient les chiites pakistanais, si vous pouviez y répondre au passage, ça m'intéresserait. Est-ce que c'est des ismaïliens ou des duodécimains, etc. Et en fait, il y a aussi une autre violence qu'on voit aujourd'hui, c'est entre sunnites, entre les pro-wahhabites, les néo-wahhabites du Waziristan, des frontières du Nord-Ouest, etc., contre des sunnites qui paraissent moins extrémistes. Donc, est-ce que cette théorie d'une idée d'une inertie de la violence, d'une culture de la violence qui se serait implantée à partir de la partition, vous paraît faire sens, ou est-ce que ce serait une exagération? Et puis sur la Colombie en tant que géographe, j'aurais aussi une question: est-ce que la géographie ne serait pas aussi une piste pour analyser ces violences entre des zones de paix et puis, pour reprendre Fox News, des no-go areas, évidemment sans référence à ce qui se passe à Paris? J'ai beaucoup rigolé avec cette idée, mais néanmoins la géographie et l'approche spatiale pourraient être aussi un moyen pour essayer de montrer la complexité de la situation. C'était ce que m'évoquait la fin de votre propos notamment.
Je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste du Pakistan, hein. Mais donc j'aurais du mal à vraiment répondre à votre question, mais je crois que pour ce qui est du Pakistan, il y a un moment qui est crucial, c'est la guerre d'Afghanistan. Parce que là, vous avez une masse de réfugiés qui arrivent et vous avez des armes qui circulent sur une échelle colossale, plus toutes sortes de trafics de drogue et autres qui font qu'il y a beaucoup d'argent aussi qui circule, etc. Donc ça change complètement l'échelle de la violence au Pakistan. La 79-80, la violence prend une dimension nettement supérieure. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce type d'analyse. C'est clair que les auteurs de la violence ne sont pas forcément les mêmes, et puis l'échelle n'est pas du tout la même. Alors sur la question des chiites, non, alors les chiites du Punjab même, ce sont des duodécimains, Et ils sont là depuis toujours. Il y a toujours eu une importante population chiite. Simplement, il n'y avait pas un antagonisme particulier entre chiites et sunnites, en particulier pendant la période, la dernière période coloniale, où, disons, l'antagonisme était plutôt entre musulmans d'une part et hindous et sikhs. Donc les sunnites et les chiites avaient eu tendance plutôt à faire bloc. Mais alors ce qui est important, c'est la révolution iranienne. Là. C'est qu'il y a une mobilisation politique des chiites qui se fait, qui n'avait jamais existé auparavant. Et donc, il y a une forte réaction sunnite. Et il faut savoir aussi qu'un des éléments qui a provoqué la colère des chiites, c'est que le régime de Zia, le régime quand il a islamisé la législation pakistanaise, il a utilisé l'interprétation hanafite sunnite du droit musulman, qui était différente, évidemment, de l'interprétation chiite. Donc, tout d'un coup, les chiites se sont trouvés soumis à une loi hanafite, enfin, sunnite hanafite, à laquelle ils n'avaient jamais été soumis auparavant. Donc, voilà, si vous voulez, c'est des éléments. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du Pakistan, hein, donc c'est juste des choses que je sais comme ça par la bande, mais voilà. Donc, c'est ce que je pouvais vous répondre.
La géographie.
Alors, oui, sur la géographie, vous avez tout à fait raison. Je ne l'ai pas mentionné parce que, en fait, c'était un peu une banalité, mais ça vaut effectivement la peine de le rappeler. La Colombie est un pays qui fait deux fois la France, avec trois cordillères, donc la fin des cordillères andines, avec des vallées très, très, très difficiles d'accès, des zones complètement de non-droit. La Colombie a été qualifiée par un ancien président de la République colombienne de Tibet d'Amérique latine. Donc ça, effectivement, ça a facilité et favorisé l'émergence de la consolidation de groupes de guérillas au travers le pays, et c'est ce qui facilitera sans doute ce que j'appelle les enclaves mafieuses dans certaines régions éloignées qui ne seront pas d'une importance vitale ni politique ni économique, et où on laissera sans doute se développer des acteurs qui auront décidé de ne pas rendre les armes si un accord de paix est signé.
Merci. Une brève question, M. Markowitz. Vous avez souligné tout à l'heure que, et c'est d'ailleurs une remarque paradoxale, qu'au moment où les deux entités, les deux grands États se sont constitués, finalement, ils ne se sont plus tellement fait la guerre, sauf pour le Cachemire. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que tous ces massacres atroces que vous avez exposés, avec tous les phénomènes d'inhumanité qui les ont accompagnés, sont liés plutôt à l'existence d'une période de transition où soit il y a une volonté de nettoyage ethnique pour permettre d'avoir une sorte d'homogénéisation de la population, est-ce qu'il y a eu une sorte de violence gratuite? C'est très lié à cette transition, et c'est une fois que les choses ont été figées, finalement les massacres se sont arrêtés. C'est comme ça qu'il faut les interpréter, parce que ça touche des millions de personnes tout de même.
Non, mais je pense qu'effectivement cette éclipse transitoire de l'État a été très importante. Alors maintenant, si vous voulez, il y a eu en même temps des complicités des deux côtés, c'est-à-dire que même si le projet des États n'était pas le nettoyage ethnique, il y avait des agents étatiques qui, eux, pouvaient tout à fait participer à ces projets de nettoyage ethnique. Donc là, il faut faire attention, mais justement, dans la mesure où les nouveaux États n'étaient pas encore vraiment consolidés, ils ne contrôlaient pas nécessairement tout à fait leurs agents. Donc il y a une sorte justement de période de transition qui est favorable à ces formes de nettoyage ethnique. Mais enfin, si vous voulez, il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Enfin, par exemple, bon, il y a des gens qui sont persuadés que les Sikhs avaient un projet à très long terme de création d'un État Sikh, et donc la partition n'a été pour eux qu'une première étape, etc. Mais ça n'a jamais été démontré. Alors il y a quelques déclarations de Master Tara Singh, qui était un leader Sikh, qui pourrait laisser penser, mais Tara Singh était un personnage un petit peu bizarre, etc. Et on ne peut pas trop se fonder là-dessus. Donc, si vous voulez, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Hein, si vous voulez... par exemple, les archives de la Califorge n'existent pas. pour donner un exemple. Donc, alors on dit qu'il y avait un quartier général, etc., que bon, les actions étaient relativement centralisées, etc., mais enfin, bon, personne n'a mis la main sur ces archives qui, à mon avis, ont disparu. Mais enfin, bon, c'est... De toute façon, en Inde, les archives disparaissent facilement, mais enfin, bon, c'est une autre affaire. Donc, voilà, c'est ce que je pouvais répondre.
Comment il y a quelque chose, des deux côtés, il y a quelque chose qui me reste mystérieux ou énigmatique si on prend un peu de hauteur temporelle, c'est-à-dire on envisage les choses à plus long terme. Est-ce que, du côté indien, sous l'entendu indien, le colonisateur anglais qui partout où il a régné à essayer de minimiser les coûts de sa domination en procédant à une politique systématique de division. Est-ce que ça a joué là ? Alors, la réponse est non.
Là, c'est extrêmement compliqué, mais il faut savoir que les Anglais étaient contre la partition de l'Inde au départ, tout simplement pour des raisons stratégiques. C'est-à-dire que pour eux, l'armée pakistanaise n'était pas capable de garder la Khyber contre une éventuelle invasion soviétique venu d'Afghanistan. Si vous regardez les documents britanniques à l'époque, c'est ça qui domine. La pensée des militaires et des hommes politiques britanniques est dominée par l'obsession d'une arrivée des soviétiques via l'Afghanistan. Il n'y a pas de route en Afghanistan, mais enfin bon, ils sont persuadés que l'armée rouge va déboucher à un moment. Et donc, ils ont peur que si l'armée indienne est divisée entre une armée indienne et une armée pakistanaise, l'armée pakistanaise, qui sera la plus faible des deux, forcément, pour des raisons démographiques, ne sera pas capable de tenir la Khyber face aux hordes rouges. Donc, si vous voulez, du point de vue stratégique, les Britanniques sont tout à fait opposés à la partition. D'un autre côté, c'est vrai que certaines des politiques qu'ils ont menées ont eu tendance à favoriser la partition, mais ça, c'est une autre affaire. On ne peut pas accuser les Britanniques d'avoir voulu la partition. Ça, c'est un mythe qui est très répandu, hein, qui est très répandu en Asie du Sud, mais il vient de gens qui n'ont simplement pas consulté les archives, même les documents publiés, qui montrent très clairement quelle était la pensée.
Je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas suggérer que les Anglais ont voulu préparer, accepter, etc., la partition. Non, je remonte beaucoup plus haut dans le temps, au XVIIIe et au XIXe siècle. Est-ce qu'il n'y a pas eu une politique, je répète, de gestion du sous-continent indien en opposant ou en divisant les communautés les unes contre les autres, sans songer du tout à ce sur quoi ça pourrait déboucher politiquement?
Alors, encore une fois, il y a effectivement des éléments dans la politique britannique. Bon, il y a des éléments de divide and rule qui sont toujours dans les politiques impériales. Si vous voulez, bon, en particulier, par exemple, il y a en 1909 l'introduction d'électorats séparés pour les musulmans qui effectivement tend à communaliser la vie politique en Inde, incontestablement. Oui, il y a des formes, incontestablement, je veux dire. Bon, tous les colonisateurs pratiquent ça d'une certaine façon. Donc là, à mon avis, les Anglais ne sont pas plus coupables que d'autres. Mais par contre, pour ce qui est... On croit souvent, c'est des choses qu'on entend encore en Inde très souvent, que les Anglais ont tout fait pour partitionner l'Inde, mais pas du tout, parce que c'était aussi leur construction politique. Ils n'étaient pas du tout favorables à une division, même si, encore une fois, les politiques qu'ils ont menées, d'une certaine façon, ont aussi conduit à cette division.
Du côté colombien, tout de même, on est frappé, vous l'avez vous-même rappelé, par la constante, enfin, ou la récurrence périodique, si vous voulez, de conflits, tout de même, intestins de ce genre, ce qui pose... question, est-ce que la Colombie est bien née ou bien est-ce qu'elle est mal née, a été mal conformée? Enfin, est-ce qu'il y a un vice de forme initial? Enfin, c'est une question, hein, moi je n'ai pas la moindre opinion.
Alors, effectivement, la question est tout à fait légitime. Alors déjà, il faut savoir que la Colombie n'existait pas en tant que telle pendant l'époque coloniale. C'était la Grande Colombie qui ensuite, lors de la période d'indépendance donne lieu à la création de l'Équateur, de la Colombie, du Venezuela. Et effectivement, je pense aussi que les Espagnols ne sont pas à l'origine des guerres entre libéraux et conservateurs, même si effectivement le régime a favorisé, le régime colonial a sans doute favorisé l'éclosion et la durée de ces guerres. En Colombie, il y a une explication qui est très souvent réfutée, qui est très simpliste. C'est-à-dire que les Colombiens, où il y a beaucoup de gens qui considèrent que la violence est quelque chose d'inné, enfin de, c'est dans les gènes. C'est-à-dire que les Colombiens sont violents et donc on ne peut pas faire autrement. Comme toute explication culturaliste, c'est évidemment très exagéré, même si... alors bon, il me faudrait davantage de temps pour entrer dans les détails, mais même si je pense qu'on ne peut pas complètement exclure une certaine une explication de ce genre, qui n'est sans doute pas la raison fondamentale, qui n'est très certainement pas la raison fondamentale, mais rejeter complètement tout type d'explication de ce genre me paraît un peu dangereux également. Je pense qu'effectivement, la culture fait qu'il y a une certaine tendance à considérer que l'usage de la violence est relativement légitime, même encore maintenant. Alors bon, après, la culture du narcotrafic aussi, mais on retrouve ça au Mexique, je crois, enfin, a contribué à renforcer aussi toute cette tendance.
Bien, je vous remercie. Merci à tous deux. Jean-Meyer voulait poser une... Excusez-moi, je n'avais pas vu.
Merci. Non, je voulais remercier les deux orateurs parce que bon, il y a longtemps que je suis au Mexique, donc comme vous, au bout d'un moment, je suis myope et je ne comprends pas ce qui se passe. Et la situation actuelle du Mexique est très difficile. Mais tous les deux, vous avez souligné, plus directement Markowitz, mais ou l'absence d'État ou la faiblesse de l'État. Or, comme le Mexique, pendant 80 années, a été dirigé par le même parti, qui contrôlait tout, qui apparemment le contrôlait très bien, nous avions tous l'impression, en particulier les gens de l'opposition, que l'État était tout puissant, que l'État mexicain était un Léviathan formidable. Et le paradoxe, c'est que lorsque le Parti révolutionnaire institutionnel, ce qui est déjà un très beau nom, a perdu la présidence de la République en l'an 2000, après une très longue transition de 20 ans, hein, où il a commencé à perdre quelques gouvernements d'État, puis il a perdu la majorité au Congrès, et finalement il a perdu la présidence de la République. Et c'est à ce moment-là que ce système mafieux dont vous parlez, avec raison, a commencé à se développer. Et c'est justement parce que le président de la République, en l'an 2000, venant d'un parti d'opposition de centre droit, n'avait pas la majorité absolue, même si son parti était le plus nombreux au Congrès, et 22 États sur 33 étaient toujours contrôlés par le PRI. Les gouverneurs des États sont devenus de vrais satrapes, au sens fort du terme, des rois dans leur gouvernement, dans leur État, puisque le Mexique est une fédération, et le gouvernement central ne contrôlait rien, en fait. En 2006, avec des élections présidentielles très controversées, c'est encore le parti de centre-droit qui est resté au pouvoir, avec la même impuissance. Et aujourd'hui, on découvre avec stupeur que pratiquement il n'y a pas d'État mexicain. Que l'État n'ose jamais employer la police contre aucune manifestation, alors que l'État mexicain a une tradition de brutalité très grande. Et tout ce que vous avez dit de la Colombie, d'ailleurs on disait, attention, attention, le Mexique est en train de se colombianiser. Effectivement, il a été colombianisé, mais et au-delà. Je crois que d'une certaine manière... Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Je ne sais pas si c'est intéressant, mais il n'y a pas de guérilla. Mais pour tout le reste, c'est exactement la même chose. Et les atrocités, vous me direz d'où vous avez tiré la citation de Char qui est formidable. C'est les feuillets d'hypnose.
Ce matin, en me réveillant, je me suis dit j'ai oublié, j'ai pas.
Bon, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais l'atrocité, je ne sais pas si en Colombie ça va jusque-là, elle est aussi rituelle. Les mutilations systématiques et symboliques, le cadavre démembré, mais associé avec des animaux sacrifiés, serpents ou coqs ou moutons. Et les atrocités sans nom. Et puis viennent de surgir au Mexique, dans deux ou trois États, des mouvements d'autodéfense que le gouvernement essaie de récupérer, de transformer finalement en paramilitaires. Et il n'a pas réussi à les récupérer, si bien qu'aujourd'hui les principaux chefs d'autodéfense sont en prison. Mais voilà, c'est le thème de l'État. La sauvagerie d'un côté et l'absence d'État de l'autre. Et alors, est-ce que l'absence d'État encourage la sauvagerie? Et ce que vous disiez du culturel, pas génétique, mais culturel de la violence en Amérique latine, je crois que ça vaut effectivement. Sachez que quand même, le Honduras et le Venezuela sont aujourd'hui les pays au monde qui ont le taux d'homicide le plus élevé. Et que Caracas est la ville du monde la plus dangereuse, la plus violente. Il y a quand même là une continuité historique intéressante.
Si vous me permettez juste une remarque, c'est assez intéressant parce qu'en Colombie, on parle aussi de mexicanisation de la Colombie. Mais le dialogue est intéressant. Alors, parler d'état faible en Colombie, je crois que ce n'est plus le cas. Et ce qui rend encore plus difficile la lecture, parce que ce serait, je dirais presque un peu trop simple de dire, bon ben voilà, il y a un état faible, donc ça explique ceci et ça explique cela. Mais l'état, au cours des 20-30 dernières années, s'est renforcé. Il y a effectivement des zones où il n'est pas suffisamment présent, mais ce n'est pas une explication suffisante, je dirais, pour expliquer les phénomènes actuels.
Bien, merci.